On peut les aider?
Oui, en faisant un don à l'OSE. Chaque euro permet de donner de la joie à des enfants qui, eux aussi, veulent célébrer Hanouka.
Alors, on fait un don!
Pour donner à l'OSE, rendez-vous sur ose-france.org ou faites un chèque à l'OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75 010 Paris.
Il est 15h, merci d'être avec nous en direct sur Radio J. À suivre, un nouveau journal. Qui vous est proposé par Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le premier ministre israélien est à la Knesset pour voter le projet de loi sur la taxation des bénéfices non distribués. Moins de 48 heures après avoir subi une opération de la prostate, Benjamin Netanyahou a quitté l'hôpital contre l'avis de ses médecins pour soutenir le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui l'appelait ce matin à prendre ses responsabilités. Les partis d'extrême droite, Otzma, Yehudit et ultra-orthodoxe, Agudat Israël, menace de s'opposer à la loi sur les bénéfices non distribués réinvestis dans les entreprises. Jusqu'ici exonérés d'impôts, le ministère souhaite désormais taxer ses profits, Daniel Haïk.
Les partis ultra-orthodoxes exercent une pression sur le gouvernement israélien pour qu'il présente immédiatement un texte de la loi sur la conscription des étudiants en yeshiva avant l'approbation du budget. Ils menacent de ne pas soutenir le budget si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et puis le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, cherche lui à régler un autre conflit, celui avec Itamar Ben-Gvir, pour éviter de devoir accorder des fonds supplémentaires au ministre de la Sécurité nationale. Une situation donc très complexe qui met la stabilité du gouvernement en danger.
Notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Sur le terrain de Tsahal, annonce le départ de la brigade Nahal de Rafah. Déployée fin mai dans la localité du sud de la bande de Gaza, la brigade a pu localiser et détruire de nombreuses infrastructures utilisées par le Hamas à des fins terroristes, notamment des tunnels, selon un bilan des 7 mois d'opération sur place dressé par l'armée israélienne. Par ailleurs, Tsahal a annoncé avoir éliminé dans le nord du territoire un commandant du djihad islamique en charge de tirs de roquettes contre Israël. Au lendemain d'une attaque houthie contre Israël, de nouveaux débris du missile utilisé hier par les rebelles yéménites ont été retrouvés à Beit Shemesh, dans le district de Jérusalem. Des débris retrouvés sur le balcon d'une maison. Des morceaux du missile ont atterri à au moins 3 endroits dans cette ville. Le projectile a été intercepté dans la soirée avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien. À Harish, plusieurs véhicules ont été endommagés par des fragments. Et puis à Yavne, une jeune femme de 18 ans a été légèrement blessée après avoir été heurtée par un véhicule alors qu'elle cherchait à rejoindre un abri. C'est dans ce contexte de recrudescence des attaques houthies que les rebelles soutenus par l'Iran ont promis des surprises à l'État hébreu. L'armée française a frappé des positions de Daesh en Syrie, annonce Sébastien Lecornu, le ministre français des armées. Ces frappes opérées avant-hier s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de la France dans la lutte contre le terrorisme en Levant, a assuré Sébastien Lecornu sur le réseau social X. Au total, 7 bombes ont été larguées contre 2 cibles distinctes. Les ministres des Armées et des Affaires étrangères Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot sont actuellement en déplacement au Liban afin notamment de fêter le réveillon du Nouvel An avec les militaires français de la Finule dans le camp de Terkifa. Après une journée passée à Mayotte, le Premier ministre français est en déplacement à La Réunion. François Bayrou achève aujourd'hui sur l'île de l'océan Indien son déplacement consacré au cyclone Chido qui a frappé Mayotte, on le rappelle, il y a un peu plus de 2 semaines. Hier, il a annoncé une batterie de mesures destinées au redressement de l'archipel. Le chef de l'exécutif a dit souhaiter la réconciliation, l'action et la stabilité pour l'année à venir. Emmanuel Macron, de son côté, va présenter à 20h ses vœux aux Français dans la traditionnelle allocution télé de la Saint-Sylvestre. Objectif, tourner la page d'une année marquée par une dissolution tourmentée de l'Assemblée nationale. C'était en juin. Dans le même temps, plus d'un million de personnes sont attendues dès 19h sur les Champs-Élysées pour les festivités de la fin de l'année. Au programme, feux d'artifice, concerts ou encore spectacle de cirque, annonce la mairie de Paris. Les chanteurs Edith Depréto, Lio, Franglish ou encore Jean-Louis Aubert se produiront gratuitement sur scène. Un moment d'attention soutenu pour le préfet de police de Paris, Laurent Nouniez.
C'est pas forcément l'événement, le moment le plus stressant de l'année. On sort des Jeux Olympiques, de l'inauguration de Notre-Dame, mais c'est un moment d'attention très soutenu pour les forces de l'ordre, parce que traditionnellement, donc dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, on peut avoir des violences urbaines, on a un gros dispositif de sécurisation à monter. On a 10 000 membres des forces de sécurité qui sont mobilisés entre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les militaires du dispositif Sentinelle et puis aussi les policiers municipaux, notamment à Paris, qui seront engagés sur la sécurisation du dispositif des festivités de ce soir.
Laurent Nouniez, ce matin au micro de nos confrères de RTL. La soirée qui sera diffusée en direct sur France 2 se clôturera par le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An à minuit.
Radio G. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Raffal. Radio
G. Bonjour, c'est Serge.
Bonjour, c'est Nicolas.
On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J.
Au programme médecine, chirurgie,
bien-être
et santé.
Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Allô Alia ?
Allô Alia, le centre d'appel gratuit pour obtenir toutes les réponses concernant la préparation de votre Alia et votre intégration en Israël. Allô Alia, besoin d'infos sur vos droits, l'emploi, le système de santé, les retraites, l'éducation, l'université, l'armée, la reconnaissance des diplômes, les cours d'hébreu ou encore les réseaux d'entraide.
Allô Alia ?
Allô Alia, 0805 031 550, un numéro vert à votre écoute. Allô Alia, service en français, 100% gratuit. 0805 031 550.
Appelez-nous.
Radio J.
Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show.
Bonjour à tous, ici Annabelle Show. Vous êtes bien sur Radio J. Bienvenue dans votre rendez-vous, le Late Show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Abonnez-vous sur Radio J Mag sur YouTube. De son sud natal, elle a le soleil et le sourire dans les yeux qui sont grands et bien ouverts sur notre société pour nous en montrer les folies et à travers son humour et sa dérision. Perchée sur ses talons, elle nous amène un peu de hauteur sur notre train-train quotidien. Elle est le rossignol de Toulon, la défenseuse et promulgatrice de la loi du talon. Ses chroniques et ses sketchs à travers la France, on se les arrache. Une fois qu'on y a goûté, ça tâche pas, mais on s'y attache. Si vous n'avez toujours pas deviné de qui je veux parler, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, car aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Saroche.
Bravo.
Bravo à vous. Applause. Oui. Bienvenue.
Merci.
Bienvenue Sandrine, comment ça se passe? Allez, pour commencer cette émission en bonne humeur, j'ai envie de vous faire écouter ça.
Je crois que vous aimez bien. Est-ce que je peux dire, est-ce que j'ai le droit de dire que j'aime les chansons en allemand? Moi je fais partie de cette génération de gens qui ont fait allemand en première langue et donc qui ne parlent ni allemand ni anglais. Et voilà, et c'est vrai que cette chanson, elle a vraiment le don de me replonger dans mes années lycée et c'est génial.
C'est
la musique
un
pour
petit
ça.
Shot de nostalgie ça qui vous met une petite adrénaline.
Il n'y a pas que celle-là, heureusement. Mais
là j'avais envie pour commencer en bonne humeur cette émission. En plus, alors vous avez un début de saison très dense et très riche, parce que alors on va tout raconter évidemment. En plus, alors vous faites partie. Oui, c'est vrai que vous faites partie donc de cette élite allemand première langue. Donc ce début de saison était riche en émotions pour plusieurs raisons, parce que vous avez joué votre premier opéra comique.
Ouais,
c'est ça.
J'ai chanté à l'Opéra Garnier. C'est un truc
classe. Je crois qu'on peut relancer des applauses.
Non, mais ça, c'est quelque chose que je pense que même dans mes rêves les plus fous, éventuellement, j'aurais pu penser que je chanterais un jour à l'Opéra de Toulon. Allez, puisque mais l'Opéra Garnier, non, jamais j'imaginais que. Et effectivement, j'ai fait partie de cette aventure incroyable.
Sur les brigands
d'Offenbach. Ouais, parce que Offenbach, c'est pas n'importe qui. Parce qu'on parle toujours de Mozart, mais Offenbach, franchement, il a le même niveau. Il est juste plus drôle.
Ouais, c'est le Mozart. En version funky, quoi.
Mais quel talent,
c'est vrai.
Mais c'est du génie à ce niveau-là. Et d'ailleurs, son influence, une de ses influences, c'est que son père était cantor à la synagogue. Ah. Et donc, c'est ce que nous a expliqué le metteur en scène. Il paraît que si on accélère les chansons de la synagogue, on arrive à Offenbach.
On va demander au rabbin de à travers le monde de se faire un petit test pour avoir un droit à un spectacle.
J'ai eu un rôle sur mesure dans les brigands d'Offenbach à l'Opéra Garnier en septembre et en octobre. Ça continue en juin et juillet prochain.
Oui.
Je crois qu'il reste quelques places, mais je suis même pas sûre parce que ça a été très vite.
Ça a été un gros succès.
Ouais. Ouais, ça a été un gros succès parce que c'est assez exceptionnel que maintenant il y ait des opéras à l'Opéra Garnier. Ils sont en général, ils sont à Bastille. Oui. Et puis donc
ça rajoute quelque chose d'encore plus noble, j'imagine,
de l'opéra Garnier, on en tombe amoureux. Offenbach, le plafond de Chagall, la mise en scène de Barikowski, et puis les chanteurs sur scène, enfin toute la mise en scène est totalement folle. Alors c'est très queer, il faut le préciser quand même pour ceux qui ne sont pas spécialement amateurs de queer. Bon, c'est quand même très déjanté, mais franchement, c'était une expérience incroyable. Donc voilà, j'ai chanté dans cette opérette. J'avais eu la chance aussi quelques jours plus tôt, avant de commencer l'opérette, de réciter Pierre et le Loup avec la Garde républicaine.
Vous avez fait votre Aya Nakamura, mais version.
Sauf qu'Aya Nakamura, c'était avec la fanfare. Moi, c'était avec l'orchestre. Voilà.
Ah, oui.
Ouais. Et sachant que le précédent récitant était Emmanuel Macron, je crois qu'il avait récité ça à l'Élysée. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses.
Sinon, il y a eu Édouard Philippe un peu plus loin.
Voilà. Donc j'ai eu plein de
sauts dans le vide pour cette première.
Oui, et donc ce qu'on disait effectivement, c'est que je renoue en fait avec ce que faisait Offenbach, qui faisait venir dans ses opéras, dans ses opérettes, dans ses opéras comiques. C'est un opéra comique, des chansonniers justement pour avoir une partie sur l'actu. Et là, c'est exactement ce que
c'était pour vous.
C'est génial. Et je chante. Et en plus, j'ai un petit monologue.
Et donc ce passage est parlé, du coup. Il est sur une musique aussi.
Ouais, non. Il y a un passage de stand-up. Donc,
c'est génial.
Donc c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans le livret de Meillac.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est un texte que j'ai écrit moi-même. C'est avec mes co-auteurs, bien sûr, puisque je travaille.
Ça doit être quand même assez troublant quand vous rentrez pour la première fois sur cette scène et qu'en plus donc vous chantez déjà avec tous ces gens autour de vous et qu'en plus vous faites du stand-up. C'est quand même une expérience incroyable.
C'est une expérience incroyable et franchement, je ne sais pas parce que c'est tombé du ciel en plus, c'est venu comme. J'ai été quand même contactée via LinkedIn.
Comme quoi ça sert LinkedIn.
Moi, je ne savais pas à quoi ça servait jusqu'à présent parce que je me disais, quand ils me proposent d'avoir des postes de responsable de magasin, parce qu'ils voient bien que j'aime le contact, etc. Mais là, ça ne marche pas. En revanche, quand on me propose effectivement d'aller chanter à l'Opéra Garnier, j'ai répondu très très vite.
Ah oui.
Voilà.
Oui, vous y avez cru tout de suite ou
qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Enfin voilà.
Ne loupez pas si jamais vous avez envie de découvrir Sandrine Saroche sous un nouveau jour.
Juillet, les Brigands d'Offenbach. Voilà, l'Opéra Garnier.
Et ça a dû aussi vous changer, je reviens encore là-dessus, mais c'est vrai que quand on fait du one man, bon, vous êtes entouré d'une équipe, évidemment, qui est avec vous à l'écriture, à la mise en scène, à la technique, mais c'est vrai que là, d'être avec autant de gens sur scène, ça a dû vous changer, ça a dû vous faire du bien aussi.
Ah ben, carrément, parce que moi, jusqu'à présent, je me disais pourquoi je fais du one man, est-ce pourquoi personne ne veut jouer avec moi? Et en fait, j'ai vu que non, finalement, ça se passait bien avec les autres et ça m'ouvre d'autres perspectives.
Ouais, ça vous donne de nouvelles idées.
Voilà, je pense toujours à cette phrase de René Girard, chacun de nous se croit seul en enfer et c'est cela l'enfer. Voilà. Donc je ne suis pas toute seule. Nous ne sommes pas toutes seules. Vous n'êtes pas seule.
Effectivement, vous n'êtes pas seule et vous ne serez pas seule non plus le 12 novembre parce que vous allez nous rejoindre avec toute l'équipe de Radio J, tous les chroniqueurs humoristes pour un très gros plateau exceptionnel d'humour. Ce sera la première édition et donc on est très heureux. Vous serez notre marraine. Donc voilà, chers amis, si vous voulez voir un bout de Sandrine Saroche,
c'est pas encore ce que je vais faire, mais je serai là.
Et ben moi non plus, figurez-vous. Mais je serai là aussi, je serais très heureuse de partager cette scène avec vous. Et on aura aussi donc Philippe Lelouch le 12 novembre, tous les chroniqueurs de cette chaîne, Kevin Derblou, Meryl Pénélope, Nina Azoulay, Myriam Barouk et Nicolas Raffal, et moi-même. Donc n'hésitez pas à réserver vos places. Vous avez toutes les infos sur Radio J, le site radioj.fr. Et évidemment, je vous retrouve aussi parce que vous avez mis au monde il y a quelques jours. Ouais. Pour votre nouveau one woman show, en fait,
nouveau spectacle,
qui a vu le jour donc à Nantes, dans la compagnie du Café Théâtre. On salue Mathilde,
Mathilde,
la patronne. Et donc, comment ça s'est passé, donc, cette éclosion, naissance de ce nouveau One Woman Show qu'on pourra retrouver au Théâtre des Mathurins dès janvier, le 23 janvier 2025.
Ouais, extrêmement bien. J'ai même eu droit à quelques standing ovations pour un spectacle qui vient de naître. C'est quand même plutôt sympa. Bon, c'est vrai que je leur avais demandé. Mais c'est très bien, très prometteur. Donc, c'est ce qu'on appelle je fais une tournée de rodage, là, pendant 2 mois. C'est-à-dire que je joue parce que, vous le savez, hein, il n'y a que le public qui peut nous dire si ce qu'on a fait est bien ou pas. Non, mais c'est ça qui est incroyable dans ce métier, parce qu'on parfois on est très content d'une partie, on se dit ah, ça c'est génial, et puis en fait ça marche pas du tout, puis d'autres trucs auxquels on croit moyennement, et puis ça se révèle.
Vous avez des trouvailles sur scène aussi.
On les trouve sur scène, absolument. D'un coup on a une fulgurance, une vanne, on appelle une autre, une réflexion, la réaction du public aussi. Moi j'ai eu des choses totalement inattendu. Je commence à parler, par exemple, l'Ayurveda.
Oui.
Je me dis, bon, bah, l'Ayurveda, ça ne va faire rien à personne. Et j'ai un éclat de rire, en fait. C'était une spectatrice qui, en fait, partait la semaine d'après en cure ayurvédique, et son mari venait de lui dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais pourquoi? Et je disais exactement la même chose. Et donc, je disais, mais jamais j'aurais imaginé que ça pouvait faire rire autant. Ben voilà, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Et bien là, j'ai eu sur cette phrase un grand éclat de rire. Alors voilà.
C'est surprenant. Effectivement, et c'est vraiment une période excitante pour vous, j'imagine. Après avoir rodé, tourné partout en France, dans toutes sortes de salles de plus en plus grandes, le spectacle précédent.
Il faut le dire et le redire, mais public, la phrase de Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Ouais.
Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, c'est pas sympa pour nos compagnons, pour ceux qui partagent nos vies.
Mais quand même un peu.
Mais il est vrai que c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux.
C'est vrai que l'adultère, il se fait avec le public.
Et l'orgasme avec le public. Mais c'est ça, c'est vraiment merveilleux. Quelle chance, voilà. Quelle chance de faire ce métier pour ça, pour pouvoir vous rencontrer.
Effectivement, donc allez la rencontrer. On peut aussi retrouver vos dates de rodage, parce que c'est vrai que c'est excitant aussi d'aller vous retrouver à travers toute la France. Oui, on peut vous voir de très près. Ouais. Et on a vraiment toutes les mimiques,
on a des petites réflexions. Mais je vous pensais plus grande, hein.
Oui, effectivement, vous êtes confronté vous aussi d'encore plus près au public, qui a l'habitude certainement de vous voir à la fois dans vos chroniques en télé et à travers la radio, j'imagine.
Ouais.
Donc c'est une vraie rencontre pour certains.
Bah oui, parce que et puis il y a une
proximité. Elle est comme ça en vrai.
En vrai, elle est comme ça, il y a une proximité qu'on ne peut pas, négliger. Et ouais. C'est autre chose. Quoi. C'est autre
Effectivement.
Chose.
Et du coup, justement, vous parlez de ce public. Alors, on a quelques avis de ce public nantais, justement.
Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ? Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je la voyais hors spectacle. Et franchement, naturelle, spontanée.
Beaucoup de talent,
ouais. C'est ça.
Franchement, sympa. Pour du rodage, c'est impressionnant. Ça fait longtemps qu'il tourne. C'était super drôle, j'ai adoré.
Elle est parfaite. Comme on l'aime.
Oh bah super, elle était comique, dynamique, et puis ça donne la pêche quoi, en fait. Hein.
Non, c'était vraiment génial. Très beau spectacle, et beaucoup de rythme. C'est très drôle.
On s'en va bien, ouais, c'est super bien. Bonne comédienne.
Alors, c'était très bien, j'ai adoré. Il m'a beaucoup aidé à son milliard, vraiment, c'était incroyable.
Est-ce que t'as rigolé?
Oui, beaucoup.
Est-ce que t'as tout compris?
Pas tout, non.
Elle avait 12 ans.
Est-ce qu'il y a un moment que tu as préféré?
J'ai bien aimé le moment de la carte postale. La carte postale.
Ouais, vous verrez la carte postale.
C'est mignon justement d'entendre cet ado, parce que on se dit que déjà c'est multigénérationnel, que tout le monde vient vous voir.
Ah ben ils étaient en famille, et effectivement c'est toujours impressionnant d'avoir un enfant. Il avait 12 ans au premier rang, parce que de temps en temps ça grince un peu et je me dis est-ce que je peux dire ce que je vais dire, et je suis obligée. C'est, voilà, donc le premier il y a parfois des très jeunes spectateurs.
Vous rendez compte que très vieux spectateurs. Vous faites partie justement, quand on a des jeunes enfants comme ça qui viennent, peut-être un déclic pour eux, aller savoir. Le premier spectacle, la première humoriste que j'ai vue, c'est Sandrine Saroche. C'est extraordinaire de créer ce genre de moment chez les gens.
On a tous eu ça. Lorsque j'étais enfant, c'était aussi des humoristes. Moi, je me souviens d'avoir vu Thierry Le Luron sur scène, et effectivement, c'était
C'était exceptionnel.
C'était exceptionnel. Ça peut créer.
C'est une vraie légende. En plus, Thierry Leluron, c'est vrai que. Et moi, je me souviens d'avoir vu Eli Kaku.
Bah oui.
Mais c'est vrai que du coup, c'est assez excitant, cette période-là. Et donc, moi, j'ai envie un peu de jouer avec. J'imagine que c'est un peu de pression quand même, d'arriver après tout ce triomphe du précédent spectacle. J'imagine quand même que c'est.
Ouais. C'est très dur.
Vous deviez être quand même un peu tremblante avant la première.
On a quand même des métiers qui sont émotionnellement forts. Ouais. On n'a pas l'impression d'être stressé, mais c'est un gros stress.
Mais au final, le corps, il vous rappelle que vous êtes un peu stressé quand même.
Mais c'est-à-dire que je pense, on a tous, on nous demande souvent, est-ce que tu as le trac? Et en fait, le trac se manifeste
de manière différente
chez chacun. Et moi, je dis toujours, en fait, moi, mon trac à moi, c'est d'oublier mon texte.
Ah oui.
Et là, comme je suis en rodage, je peux me permettre de dire, écoutez, là, voilà, j'ai oublié mon texte et c'est donc mon metteur en scène qui va me souffler. Et c'est génial. En même temps, je suis
une liberté
incroyable et je pense que c'est ce qu'ils ont. Voilà, la sortie de scène, hein, ce qu'on vient d'écouter. C'est le public, c'est pas des gens qui ont été payés, c'est pas des faux followers. Non, c'est des vrais spectateurs. Et je pense que ce qu'ils ont aimé, c'est ça, cette spontanéité,
ouais, bien sûr.
Ce naturel. Oui, il y avait des choses qui étaient pas parfaites. Mais voilà.
En même temps, d'avoir des premières fois, c'est ce que vous avez tout le temps à travers vos chroniques aussi, puisque vous livrez tous vos textes à chaque fois.
Absolument.
Et il faut que ce soit à chaque fois efficace et drôle.
Et oui.
Donc vous êtes habitué, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. Mais, et puis à la télé, on a un prompteur. On triche un petit peu pour le texte.
Ceci dit, il y en a certains qui cèdent avec ça sur scène aussi.
Ouais, mais je l'ai appris. Bah, Mathilde me l'a proposé, mais une fois que c'était trop tard. Mais t'aurais dû me dire, je t'aurais mis des panneaux, j'avais aussi eu cette discussion avec Valérie Lemercier qui m'avait dit qu'une fois elle avait pris un souffleur et lui arrive donc le fameux trop de texte tant redouté de comédien et là le type lui souffle je
Oui, lui, il n'était pas du métier, visiblement.
Il n'était pas du métier. Voilà.
Il passait
donc,
par là. Voilà,
parfois, ça ne sert à rien. Oui. Voilà, j'ai pas eu de souffleur, mais ça s'est bien passé.
Écoutez, en tout cas, j'ai envie de jouer un peu avec vous. Voilà.
Jouons, Annabelle, voilà. Vous êtes joueuse.
Puisque des fois, le texte, vous ne l'avez pas. Moi, je vais vous proposer des mots, pour le coup. Je vous donne trois mots que vous allez devoir me caser dans l'émission, quand vous voulez. Et vous me donnez aussi trois mots que moi, je devrais caser. Comme ça, c'est réciproque. Pas de surprise. Alors, moi, je vous mets sur la voie. Je vous donne embrasé, aiguille, ça c'est référence au talon, et ratatouille, référence au sud d'où vous êtes. Donc voilà, je vous donne ces petits mots.
Il faut que je les case.
Et à vous de les caser, quand vous les caserez, vous entendrez ce petit...
Formidable.
À vous de me donner trois mots.
Alors, sauf que vous trichez parce que vous les aviez préparés.
Vous me donnez trois mots quand vous voulez, si vous voulez.
Ah oui, ok.
Sinon, je vous laisse le temps de réfléchir, et dès que vous en avez un, vous me le casez.
Bon, ok, je vais vous donner guingois. Emphysème et ouais, j'aime bien les mots contre triple. Guingois, emphysème et falbala.
Très bien.
Ouais, ça.
Ah bah écoutez, je crois que vous êtes plutôt inspiré. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est vrai que comme toute personne que j'ai le plaisir d'accueillir, je veux vous recevoir comme il se doit.
Tapis rouge.
Alors pendant ce tapis rouge, vous pouvez intervenir, vous avez un buzzer devant vous, si jamais je me gourre dans mes informations ou si je donne des fake news. Attendez, est-ce qu'il marche? Voilà,
ouais,
parfait, marche. Il marche.
Oula, il marche bien même.
Donc c'est parti.
C'est déjà exact.
Déjà c'est exact, vous reconnaissez cette chanson? Je vais s'écouter.
À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux avec leur béret sur l'oreille. À Toulon.
Eh oui, à Toulon. Nous sommes le 17 septembre 1960. Je sais pas si vous.
Si on a le droit de le dire. Écoutez, c'est une année érotique.
Voilà. Bien. Dans cette ville toulonnaise, dont le meilleur point de vue pour voir le bord de mer est dans le train SNCF, allez comprendre. Et donc, par cette belle journée d'été, naît la petite Sandrine, dans une famille peuplée d'une longue lignée de pâtissiers et de coiffeuses. C'est, tu choisis quoi, le rouleau ou les rouleaux? C'est un peu ça.
Ah oui, c'était un peu ça, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, la soirée des parrains de la Tzedaka, et j'avais dit, effectivement, je ne suis pas juive, mais mes parents sont commerçants. Et je me suis fait un petit peu retoquer par le grand rabbin, qui a dit, ah non, mais alors ça va, c'est pas possible, on est vraiment dans le stéréotype. Je me suis dit, oh là là, je pensais qu'il avait plus d'humour que ça. Et, ouais, c'est vrai qu'ils sont très commerçants chez moi. Voilà, c'est, voilà, vous avez
c'est
raison.
Peut-être pour ça que vous recevez des propositions de commerciales sur LinkedIn,
oui, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être pas un hasard. Ouais,
bon,
c'est
en vrai. Tout cas, vous avez pas choisi les rouleaux, mais le micro, hein.
J'ai choisi, ouais, j'ai
mais
choisi.
Pas tout de suite, hein. Non. Donc vous êtes une petite fille espiègle et joueuse, vos parents vous inscrivent à la danse, comme la majorité des petites filles, mais c'est pas vraiment votre truc. Au spectacle, vous n'êtes ni un chat, ni une souris, mais vous serez la seule à jouer le petit oiseau.
Exactement. D'entrée de jeu, j'étais vraiment à part. Et donc, mais j'avais le plus beau costume. Et donc, j'ai été la plus photographiée. Comme quoi.
Ouais, mais vous sortiez du lot. Et c'est ça le plus important. Et effectivement, ce rôle, c'est assez symbolique pour le reste de votre parcours. Le petit oiseau, non pas comme un vilain petit canard, mais comme un joli rossignol qui chante et qui vole de ses propres ailes, en prenant la vie avec légèreté. Avec légèreté. Car oui, des petites, vous aimez chanter, on vous nomme le jukebox.
Oui, c'est vrai. Souvent.
Vous étiez souvent.
En fait, j'avais que ça à faire. Hein.
À Toulon.
Je le dis dans mon spectacle, fumer, attendre le bus, mais aussi écouter la radio à l'époque. Et puis les disques de ma mère, en fait. J'avais les disques de ma mère. Donc, j'avais que ça à faire. Et comme j'aimais ça, je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que je connais un nombre. Alors, je connais pas les chansons en entier, mais je connais un nombre de morceaux de chansons.
Vous devriez aller chez Nagui, n'oubliez pas les paroles.
Ouais, mais je sais même pas si je serais forte à ce jeu, mais en tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai une merdothèque dans la tête.
Une merdothèque, retenez bien.
J'ai des tas de chansons, mais que personne ne connaît, je pense même ceux qui les ont chantées ne les connaissent pas. C'est impressionnant. Je me souviens un soir d'avoir chanté avec Stone.
Ouais,
donc de Stone et Chaben. Et elle me disait, mais comment tu connais toutes ces chansons? Parce qu'elle-même ne les connaissait pas. Elle disait, mais comment tu connais toutes ces chansons? C'est pas même pas ta génération. Et voilà.
Ah, c'est ça, donc la culture générale.
J'aurais pu dire que j'avais une ratatouille dans la tête. Et ce qui m'aurait permis de placer.
Allez, voilà, je valide. synonyme de merdothèque, ratatouille, tout va bien. Alors, donc, des petites, effectivement, vous aimez aussi faire des parodies. Et vous grandissez donc, comme vous l'avez dit, avec les disques de votre maman, sur fond de comédie musicale, en chantant à tue-tête. Le drame de votre vie. Pourquoi? Ouais. Parce que John Travolta n'était pas à votre porte à vous attendre avec des fleurs.
Et puis surtout parce que en fait,
c'est la musique de Grease, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu.
J'étais en CM, hein, je me souviens très bien. 78, j'étais première de la classe et il y a eu Grease et je retombe au 11e rang. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Il n'y a plus que ça qui compte. Être la nouvelle.
Vous êtes devenue un blouson noir de la classe, quoi.
Je suis devenue un blouson noir, je suis devenue blonde, j'étais brune, je suis devenue blonde frisée, je suis devenue Olivia Newton-John et John Travolta en même temps, et Rizzo et toute la bande. Et ça a été une révélation, une vraie, mais je pense que ça a été une révélation pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Est-ce que ça a été ça votre révélation de scène?
Je sais pas, non. Non.
Il y a plusieurs choses.
En fait, oui, c'est ça.
Et ça en fait partie.
Jamais qu'une révélation. D'accord. C'est un faisceau de.
Un éventail d'événements.
Ouais, des choses qui. Et puis un jour, on se dit, mais enfin, il faut vraiment que je fasse ce pourquoi je suis faite, quoi. C'est ça qui est important. Ce que je dis toujours aux jeunes, c'est pas tellement faire ce qu'on aime, c'est surtout faire ce pourquoi on est fait. Mmh. C'est ça qui est important.
Effectivement, ce pourquoi on est doué.
Ouais.
Et donc, alors vous écoutez pas que ça, vous écoutez aussi ça. Cabaret Mine Hair, toujours de l'allemand, hein. Et donc, dans votre tête, c'est Broadway, quoi, si je comprends bien.
Ah, j'aurais... j'adore ça.
Donc, enfin, vous touchez du doigt ce rêve, hein, en étant figurante à l'Opéra de Toulon, aidée par une amie de la famille. Et plus tard, vous entrez au conservatoire en chant lyrique. Jean-François Paco, votre chef de chœur, vous dit que vous avez une musicalité incroyable.
Ouais. Ça c'était un vrai compliment parce que c'était un grand musicien. Je pense qu'il sait, tu vois bien. Quand on entrait au conservatoire, on faisait obligatoirement partie du chœur du conservatoire. Donc on chantait une fois par an à l'opéra. Ça c'était sympa. Et effectivement, il m'avait entendu. C'était pas en chantant. Il m'avait entendu jouer du piano. Il m'avait dit, tu as une musicalité incroyable. Et ça c'était.
Ça s'est resté.
Quand on est enfant. C'est quelque chose.
Ça vous a marqué,
oui. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de compliments des adultes. Pas tant que ça.
Et donc ce compliment, on va le voir par la suite de cette émission, vous apporter hein, la musicalité incroyable. Je crois que c'est quelque chose qu'on vous dit souvent. On va revenir sur ce tapis rouge et sur ce parcours incroyable dans quelques instants après le flash info de Steve Nadjar. Restez avec nous, on est avec Sandrine Saroche qui nous présente son nouveau One Woman Show et que vous pouvez retrouver le 12 novembre au Palais des Glaces.
15h, 16h, le Late Show de l'après-midi. Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J. Radio J.
Le retour de l'info avec à suivre le rappel des titres. Il est 15h30. On retrouve Etanit Belaïch.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assisté à une séance cruciale du Parlement sur le vote du budget national moins de 48 heures après avoir été opéré de la prostate. Alors que sa coalition est fragilisée, il a tenu à quitter l'hôpital pour se rendre en personne à la Knesset où il est apparu bien portant. Le dirigeant israélien âgé de 75 ans a subi une ablation de la prostate avec succès avant-hier. Tzahal annonce le départ de la brigade Nahal de Rafah, déployée fin mai dans la localité du sud de la bande de Gaza. La brigade a détruit ces 7 derniers mois de nombreuses infrastructures utilisées par le Hamas et éliminé plusieurs terroristes selon l'armée. Mayotte n'a pas vocation à devenir une île bidonville après le passage du cyclone Chido, assure le premier ministre français. L'État interviendra donc afin de ne soient pas reconstruits ces habitats précaires, a promis François Bayrou en déplacement à La Réunion. Enfin, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde par rapport à l'ère pré-industrielle, selon l'Observatoire européen Copernicus.
Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Pourquoi on allume des bougies à Hanouka, papy ?
Les bougies symbolisent la lumière, mon petit. Mais cette année, il faut aussi penser à ceux qui sont dans l'obscurité.
Ceux qui n'ont rien ?
Exactement. L'OSE aide les enfants et les familles dans le besoin à célébrer Hanouka.
On peut aider aussi ?
Oui, en faisant un don. Chaque petit geste peut illuminer le cœur de quelqu'un.
Pour donner à l'OSE, rendez-vous sur osez-france.org ou faites un chèque à l'OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75 010 Paris.
Bonjour à tous, ici Annabelle Nakache, alias Annabelle Chou. Vous avez l'habitude de m'entendre sur Radio J. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve pour de vrai pour terminer 2024 en beauté à la scène parisienne à 19h le 31 décembre avec mon spectacle Amour, Action ou Vérité. Une comédie palpitante que j'ai écrite et que je joue avec Rudy Mayout pour ne jamais oublier que l'amour est un jeu dangereux. Seriez-vous toujours en couple si vous étiez obligé de dire toujours la vérité? Et vous, êtes-vous prêt à jouer? Alors à vos rires, prêt, feu, réservé, 19h le 31 décembre, la scène parisienne.
Radio J, 15h, 16h, le Late Show de l'après-midi, Annabelle Show.
Bonjour, bienvenue dans le Annabelle Show. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct avec la lumineuse, la rayonnante, humoriste Sandrine Saroche. C'est un vrai régal de vous avoir sur ce plateau. On affiche donc, comme on l'a dit, on sera heureux de vous retrouver le 12 novembre pour le Radio J Comedy Club. Et en attendant, on va aussi parler évidemment de ce nouveau One Woman Show.
On a déjà le droit de dire qu'on va embraser le
le public. Allez, je vous l'accorde.
C'est déjà le deuxième.
Alors vous m'avez mis des bonnes colles quand même, hein. Mais là, je me sens, on sera comme des irréductibles gaulois dans ce Radio J Comedy Club, et moi je serai la folle, voilà. Alors Bien, alors on s'est quitté avant ce flash info en parlant donc voilà de cette musicalité incroyable que vous avez. Et donc effectivement après vos études, vous avez pas tout de suite pris la direction du chant, mais vous êtes parti sur une direction plus académique, je dirais, à force d'entendre que dans ce métier il y a plus d'appelés que d'élus. Ça vous incite à prendre le droit chemin, celui du droit,
hein. Oui.
Donc c'est parti, direction Paris pour passer votre master de droit entre deux sessions de surveillance à la salle de perme comme pion au collège, c'est ça?
Ah ben ça c'était quand j'étais à la fac à Toulon, et oui, j'ai comme petit boulot, on va dire, j'ai eu la chance d'avoir un poste de surveillante, et
ça sert un peu de source d'inspiration, j'imagine, non?
Je sais pas si ça sert de source d'inspiration, mais je sais que je ne supporte plus le bruit depuis le réfectoire, c'est un truc de dingue, ça rend dingue en fait.
C'est vrai. Les cling-cling,
les enfants qui hurlent, ouais. Et ils se rendent pas compte, mais le volume monte, et c'est au bout d'un moment on n'en peut plus. Donc je comprends pourquoi les profs au bout d'un moment ils n'en peuvent plus, parce que c'est vraiment très 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 difficile à supporter.
C'est vrai. Du coup, ouais. Vous faites un métier où les gens se taisent pendant que vous parlez. C'est vrai. Parce que sinon, quand vous entendez trop de bruit, vous attrapez un emphysème, quoi.
Ouais, bravo.
Il est arrivé de très très loin, celui-là. J'en bafouillais tellement il était pas de... Mais bon. Donc incroyablement, dans ce cursus de droit, un de vos profs d'expression orale, c'est notre Franck Dubosc national. C'est dingue.
À l'école d'avocat, à l'EFB, l'école de formation du barreau, j'ai eu effectivement Franck Dubosc comme enseignant. Il était pas encore connu. Il avait juste fait quelques... Je crois qu'il commençait à faire les petites annonces avec Elise Moon. Et il n'était pas encore vraiment monté sur scène, parce que j'ai vu vraiment à ses débuts monter sur scène au Théâtre des 10 heures. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, plus tard, j'aimerais bien commencer au Théâtre des 10 heures. J'aimais bien ce petit théâtre, ce cocon. C'est marrant parce que je crois que c'est mon coproducteur là qui vient de reprendre la direction. Et donc j'aimais bien, j'ai commencé d'ailleurs là mon premier spectacle en 2007, s'appelait Je suis Ségolène. Et pour revenir à Franck Dubosc, oui, c'est lui qui donc m'a donné les premières règles de la prise de parole en public, donc la respiration, l'attitude, la voix, le phrasé, etc., toutes ces règles académiques qui sont un passage obligé, hein, lorsqu'on veut prendre la parole en public. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir, ne l'oubliez jamais. Eh bien, oui, c'est lui qui on s'est bien amusé. Voilà, c'était très sympa.
Vous l'avez revu depuis ?
Oui. Bah, d'ailleurs, je l'ai revu il y a deux ans quand j'étais sur France 5, sur C'est à vous, et je lui ai fait d'ailleurs une chronique dédiée justement à cette prise de parole en public.
Ah,
il s'en souvient très bien. C'était quelque chose d'important pour lui. On avait un ami commun, en fait. C'était grâce à lui qu'on était. Parce que moi aussi, je lui ai succédé. J'ai donné aussi des cours, oui, de prise de parole en public à l'école d'avocat et même dans des écoles de commerce. Et c'est très formateur. En fait, c'est très formateur. On apprend beaucoup sur l'humain.
Oui, sur soi-même, en regardant
sur
les autres.
Et sur les autres, parce qu'en fait, c'est tellement, ça peut être tellement une phobie, en fait, la prise de parole en public. On s'en fait tellement tout un monde, alors que finalement, dans la vie de tous les jours, on parle. Et puis,
alors que la vie est une grande impro, mais c'est vrai que...
Oh là là, c'est ça.
Et quand les projecteurs sont sur vous, ça peut paralyser des gens.
Le nombre de fois où on vous dit, quand je parle comme ça, je sais pas où mettre mes mains. Je dis, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu te poses la question de savoir où tu mets tes mains? Tu parles avec tes mains, elles suivent. Mais alors là, c'est d'un coup.
Mais d'ailleurs, c'est aussi ça dans les cours de théâtre, en vrai. Ouais. Pas mal de gens qui disent qu'ils savent pas quoi faire de leur corps.
D'un coup, je sais plus faire de mon corps.
Alors que la communication non verbale, ça fait partie de la communication.
Je ne sais plus comment je dois respirer. Ouais. Je ne sais plus. Mais ça s'appelle le stress, en fait, tout simplement. En fait,
donc en fait, il faut être dans l'instant présent et ressentir.
Il faut respirer. Il faut se lâcher.
On respire.
Et parce que c'est ça un processus, on le dit jamais assez, mais en fait c'est un processus d'influence.
Ouais. Comme la respiration d'ailleurs.
Comme la respiration.
C'est des allées et venues.
Bien sûr. Et on
je vais et je viens, comme disait l'autre.
Je viens, absolument.
Effectivement, c'est assez intéressant. Et donc du coup, donc ça a été très formateur, ce passage par le droit, mine de rien. Vous êtes devenu d'ailleurs juriste pour la CNIL, cette fameuse entité qui nous dit qu'on a droit à l'anonymat, mais on est quand même un peu fiché sur plein de bases de données. Et au moment de passer donc le barreau, on vous propose d'aller à Amiens.
Ouais.
Ouais. Et là, vous dites, non, là, c'est trop, là.
Ah, ben, même temps, je savais pas encore qu'il y avait Brigitte, Emmanuel et toute la clique là-bas.
Ah ouais, ça aurait été encore pire.
Et les bons macarons, de la maison Trogneux, mais, oui, c'est ça. Et puis moi, je venais d'arriver à Paris et je me dis, c'est
quoi ce délire? Je viens à Paris, je quitte la mer, je quitte ma mère, je quitte ma famille, je quitte tout en fait pour venir à Paris et on me propose d'aller me former à Amiens. J'ai dit non, même pas. Donc j'ai continué, je suis rentrée effectivement à la Commission nationale informatique et liberté qui est là pour protéger nos droits face aux méchants fichiers automatisé et donc je ne suis pas allée à Amiens, je suis restée à Paris, j'ai attendu quelques mois, quelques années et j'ai fait ma formation après à l'école de formation du barreau à Paris où j'ai eu c'est Franck Dubosc comme prof.
Oui. Ouais.
Et pas que lui hein, c'était pas lui qui venait
évidemment. Ouais. Et donc après un peu plus tard donc vous lancez vraiment dans le jeu. Vous faites un stage au cours Florent et une copine que vous y rencontrez qui après anime le top 50 sur TF6 vous dit qu'elle galère à écrire ses lancements. Donc vous lui répondez laisse, c'est pour moi.
Ah bah je lui dis écoute, moi je suis pas sûre de beaucoup de choses dans la vie, j'ai pas beaucoup de certitudes, mais ça je suis sûre que je sais faire les enchaînements, et effectivement je l'ai fait pendant quelques années avec elle. Je le faisais.
Du coup à ce moment-là vous êtes
je démissionne.
Voilà.
Et je
c'est ça qui vous donne envie.
Ouais,
vous
non, avez déjà en fait j'avais déjà démissionné. Mais pas depuis longtemps, pour écrire un spectacle. En fait, j'avais toujours en tête d'écrire un spectacle, mais je suis partie là-dedans, dans ouais. l'écriture du top 50, l'écriture de bêtisiers, de choses. Et donc,
pendant et oui, parce que pour le public qui nous écoute, tout ce que vous regardez à la télé, il y a des gens qui écrivent derrière,
sûr,
des lancements, des textes, etc. Et donc, il faut des plumes, des cœurs et des cerveaux, comme vous, Sandrine Saroche.
Ouais, pendant des années, j'ai fait ça. Et j'ai donc ce qui a différé mon entrée sur scène, parce que pendant que je faisais ça, j'arrivais pas forcément à écrire mon propre spectacle. J'étais jamais contente de ce que j'écrivais.
Ouais.
Et puis c'est arrivé un petit peu plus tard. C'est arrivé en 2007. Donc j'ai écrit mon premier spectacle qui s'appelle.
Donc à quel moment vraiment vous dites ça y est, je me lance. Comment ça a fonctionné ce démarrage?
Alors c'est vrai que c'était quelque chose de. Ça a un lien toujours avec la politique. En 2006, le Nouvel Obs titre avec Ségolène Royal en couverture. Et si c'était elle, hein, c'est leur grand truc de leur marronnier. Et si c'était lui et si c'était elle. Et je vois donc cette femme, je me dis, mais qu'est-ce que ça changerait pour nous, les femmes, si c'était une femme qui était présidente de la République? Et comme je suis quand même, j'étais déjà un peu plutôt féministe, je me suis dit, tiens, c'est une idée, je vais écrire là-dessus. Et j'ai écrit donc Je suis Ségolène, l'histoire de cette femme qui n'arrive jamais chez sa coiffeuse, parce qu'il fallait, il faut quand même mettre des choses qu'on connaît.
Cette coiffeuse, elle a une bonne coiffeuse.
Oui, à l'Assemblée nationale, elle ne vient pas et elle entend une voix. Est-ce que c'est une voix divine? Est-ce que c'était entre Matrix et Jeanne d'Arc? Et cette voix qui lui dit, ta cliente Ségolène ne viendra pas, part en campagne à sa place. Et donc voilà cette coiffeuse qui part en campagne.
Qui prend la place de sa Ségolène
et qui, nationale. Évidemment, ne fait que des conneries. Qui va voir les jeunes? Qui va voir les plus vieux? Qui va voir qui va voir Jacques Séguéla à l'époque? Enfin bon, voilà. Et c'était ça l'histoire de cette coiffeuse qui part en campagne.
Vous avez déjà cette dimension sociétale, toujours depuis
enfant en fait. Je me souviens d'avoir fait très 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 jeune, d'avoir fait comme ça. En sixième, je faisais des sketchs sur c'était à l'époque c'était Mitterrand sur.
J'imagine en plus en ayant vu Thierry Leluron qui était à fond là-dedans.
J'adorais ça. Ouais, c'est j'ai toujours aimé pasticher.
L'air du temps, le présent.
C'est tellement inépuisable comme.
Ça c'est sûr.
Comme sans inspiration.
Et depuis vous n'arrêtez plus toutes les semaines, plusieurs fois par semaine.
et toujours dans mes spectacles effectivement des petits moments politiques.
Ouais. Alors du coup donc premier spectacle, puis le deuxième one, nos amis les people, cette fois vous attaquez une autre personnalité.
À Sarko, parce qu'en fait on a vu Je suis Ségolène, je pouvais pas continuer hein, sinon j'aurais bien continué pendant des années, et surtout qu'il y avait tellement de moments qui étaient prémonitoires,
ouais.
Des disputes avec François Hollande, si tu crois que je t'ai pas vu avec ta petite journaliste, etc.
Ça a pas fonctionné
et là je me dis on est vraiment dans une ère de peopleisation, de bling bling, souvenez-vous, et donc je crée Nos Amis les People,
oui, télé-réalité, festival, de
tout ça. Ouais, au festival d'Avignon, et donc c'était un spectacle pour devenir people, on dit le son, voilà, c'était un cours de peopleisation accélérée. Après, de fil en aiguille, il en faut peu pour être heureux, qui a donné La Loi du Talon, que j'ai joué pendant de nombreuses années, mais en fait qui évoluait tout le temps, et voilà, et d'où les talons plats, mes talons aiguilles aussi.
Oui.
Ça y est, j'ai placé mes trois mots.
Bravo. Voilà. Moi, le guingo Ouais, j'y suis pas encore arrivée, mais j'ai encore le temps. Donc effectivement, alors on commence à vous faire confiance aussi pour écrire des spectacles clés en main pour des entreprises sur n'importe quel sujet, gynécologie, constipation.
Ah mais j'ai fait des trucs là.
Il y a un petit côté bonjour, je suis Sandrine de Saroche. Un spectacle dans une structure. Saroche écrit, Saroche décroche.
Ouais, c'est ça. Donc j'ai écrit beaucoup de spectacles privés. Bon, alors au départ j'ai commencé avec les cabinets d'avocats parce que c'était ce que je savais faire. Moi j'avais mon diplôme d'avocat et je connaissais quand même beaucoup de copains. J'ai beaucoup d'amis dans ce milieu. Donc j'ai commencé beaucoup avec les avocats, puis après ça s'est diversifié. Et effectivement, comme vous dites, j'ai fait un spectacle sur la constipation pour Épar qui faisait son coming out. J'ai fait aussi pas mal de spectacles. Qu'est-ce que j'ai fait? Des trucs pour des médecins.
Vous êtes vraiment une auteure qui écrit sur tous les sujets. Ça, c'est hyper formateur, j'imagine.
Ah mais c'est oui, parce qu'en fait, quand je fais ça, j'agis d'abord comme journaliste d'investigation. Ouais. C'est-à-dire, je vais investir.
Comme une observatrice.
Je pars toujours du vrai.
Sur le terrain.
Ouais. Que ce soit dans mes spectacles, dans mes chroniques, je pars toujours du vrai. En fait, moi, c'est ce qui m'intéresse.
C'est ce qui fait rire, surtout.
Bah oui.
Et oui, c'est la vérité qui fait rire les gens.
Qui reconnaissent.
L'exemple que vous avez donné, l'Ayurveda, la dame arrive parce qu'elle s'est reconnue.
Mais voilà, au moins ce qui est vrai ou ce qui est vraisemblable. Et c'est comme la rumeur. Et donc, j'aime toujours partir de ce qui est vrai. Et dans ces spectacles privés sur mesure, les gens me disent en général, mais comment vous avez fait pour nous comprendre si bien en si peu de temps? Mais moi, j'ai mis 10 ans, j'ai mis 15 ans à comprendre tout ce que vous dites. Parce qu'en fait, je leur tends un miroir. Je me souviens d'un spectacle pour une grosse entreprise de BTP où je leur fais remarquer qu'il n'y a pas une seule femme dans leur comité de direction, leur codir. Après mon spectacle, ils ont fait entrer une première femme. Alors maintenant, il y a une loi, il y a une réglementation, mais avant, elle n'existait pas là, elle n'existait pas. Donc, il y a eu des conséquences. Je vous le dis, chef d'entreprise, un spectacle d'humoriste dans votre boîte, c'est mieux que n'importe quel consultant, en tout cas, pour savoir si vous voulez vraiment avoir une vision à l'instant T de ce qu'est votre entreprise. Ben voilà, faites intervenir des humoristes, faites entrer des humoristes dans vos comités de direction.
Effectivement, il y a un secteur à conquérir là, j'imagine, c'est sûr. Donc ça vous forme comme on l'a dit, hein, cette casquette en plus. Et puis après, bon, vous avez déjà fait vos preuves en tant qu'auteur, etc. À quel moment donc alors moi, j'avoue que je vous ai découvert, pour ma part, donc dans ce fameux spectacle La Loi du Talon, en chair et en os, on partageait la même loge au théâtre Le Paris. Et je crois que vous en êtes, c'était le début de ce spectacle ou
possible, ouais, parce
que c'était le début peut-être de l'appellation La Loi du Talon.
Oui, peut-être, ouais, c'est ça. Et
donc j'ai eu l'énorme joie, bah déjà de partager votre loge, mais surtout d'aller vous applaudir. Et effectivement, je sentais déjà que ça allait être un gros carton et l'histoire nous a prouvé que ça a été le cas, effectivement. Et donc, à quel moment ça se fait ce passage à vous en chronique pour radio, télé, etc.
Eh ben, quand ils viennent me chercher, tout simplement, et qu'ils viennent.
Grâce à ce spectacle-là.
Oui, tout à fait. Ils avaient, enfin, aussi bien la boîte de prod que les gens de la chaîne, puisque c'était M6 à l'époque. Paris Première appartient au groupe M6. Et donc tout le monde avait vu ce spectacle. Et donc quand il a fallu remplacer mon prédécesseur. J'ai fait un pilote. Hein. J'ai passé quand même des essais, j'ai pas eu de passe droit et ça a bien fonctionné. Mais au départ, c'était pas si évident que ça. Je chantais pas du tout, par exemple. Et j'ai commencé à chanter. Et il paraît que à la fin de la première année, il ne savait pas comment me demander d'arrêter de chanter.
Alors que c'est votre marque de fabrique.
Et deux ans plus tard, mes chansons, il passait mes chansons à la fin du JT d'M6, comme quoi. Voilà, quand vous êtes sûr de votre talent, d'insister. Ouais. Voilà, c'est ce que disait, paraît-il, Coluche. Je disais, en fait, tapez toujours sur le clou, il finira bien par sortir quelque part. Voilà,
c'est
peut-être une des plus vraies.
Ouais, c'est vrai.
Il disait aussi, c'est pas difficile d'être comédien, ce qui est difficile, c'est d'être débutant.
Ouais.
Et c'est vrai, tellement vrai.
C'est vrai. Alors, en plus, ce qui est fou avec ce que vous nous racontez là, c'est que c'est vraiment votre truc à vous. En plus, c'est ce qui vous identifie et c'est ce qui a fait des chroniques.
Absolument, ouais.
Effectivement, ouais. Il nous manque juste le boa dans ce studio. Et c'est vrai que ça a fait des chroniques mythiques, dans plein de avec plein de costumes, plein de personnages. Valérie Pécresse, Michael Jackson, Sardou, le Roi Soleil. Enfin bon, donc c'est vrai que vous, grâce à ça, donc à travers le spectacle et à travers vos chroniques, vous brillez de mille rires de feu et couleur. dire, c'est un peu les grandes eaux de Versailles, quoi, en fait. Hein. Donc c'est vrai que j'aurais du coup plaisir cette fois, non pas juste à vous applaudir, mais à vous regarder d'encore plus près, dans les coulisses, à partager les coulisses avec vous de cette scène du 12 novembre au Palais des Glaces pour le Radio J Comedy Club. Et puis donc surtout, bah, je vous souhaite que ce spectacle que vous présentez donc à partir de janvier 2025 au Théâtre des Mathurins soit un triomphe, hein. Évidemment que vous en savouriez chaque instant. Alors juste voilà, pour revenir sur ce spectacle, évidemment dans le premier vous avez beaucoup parlé de votre famille, de personnages comme ça cultes, que ce soit la grand-mère, l'ado. Qu'est-ce que vous abordez dans celui-là, c'est quoi l'angle cette fois-ci?
Ah, j'en rajoute d'autres personnages. Il y a ma sœur maintenant qui n'était pas dans les précédents
spectacles. Votre sœur qui vous coiffe, non, c'est ça?
Ma sœur qui me coiffe.
Qui
a eu justement, c'est pour ça que je parle d'ailleurs Veda, parce qu'en fait ma sœur elle a eu la bonne idée de partir en Inde en janvier 2020. Et donc elle a été confinée. Elle a été confinée là-bas en Inde et c'était terrible parce que évidemment mes parents étaient très très inquiets. Elle était toute seule dans un pays qu'elle connaissait pas avec des pratiques, il y avait pas le quoi qu'il en coûte en Inde.
Ah oui.
Voilà, il y avait pas d'aide, ils ont arrêté de payer tout le monde. Enfin, c'était donc voilà, je raconte un petit peu cette aventure. J'essaye de le tourner de façon amusante et
quel hommage pour votre sœur,
ouais,
qui
ouais,
se retrouve chez vous dans le spectacle.
Ouais, donc on lui a lu la dernière fois, elle a levé les yeux au ciel, n'importe quoi. Voilà, en général, les gens ne se reconnaissent jamais. Hein. C'est comme quand je faisais un sketch sur les ados.
Tant mieux d'ailleurs. Hein.
Les ados, c'est n'importe quoi. On n'est pas du tout comme ça. Hein. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma tante Suzanne. J'ai pas mal de choses sur l'administration fiscale. Qu'est-ce que j'ai? Des nouvelles chansons. Je sais pas, c'est très très difficile, j'arrive jamais
à. Oui, c'est toujours difficile pour un humoriste d'expliquer son spectacle. Puisque en fait, c'est une expérience à soi, tout seul.
Ça ne s'explique pas, ça se voit.
Justement, voilà. Alors moi, je vous résume, vous êtes un cabaret à vous toute seule et on aura plaisir à venir y rêver avec vous. Voilà, donc à partir du 23 janvier 2025, allez applaudir pour ceux qui ne connaissent pas encore et ceux qui sont déjà venus donc au Théâtre des Mathurins. Notre chère Sandrine Saroche. J'ai envie quand même, vous avez parlé de votre sœur, on a parlé aussi un peu de votre famille, j'ai envie de revenir un peu sur la petite Sandrine que vous étiez.
Retour en enfance.
Alors, vous avez dit qu'on vous appelait le jukebox, que vous chantiez à la maison. Est-ce que vos parents étaient plutôt des commerçants, vous êtes plutôt d'une famille d'artisans, comment ça s'est passé? Vous avez quand même évoqué le souhait à un moment de devenir artiste, ou c'est quelque chose vraiment que vous avez gardé pour plus tard?
Ouais, j'en parlais pas vraiment. Je pense pas en avoir vraiment parlé. Bon, bien sûr, ils voyaient quand même. Enfin, c'est eux aussi hein, qui m'ont inscrit au cours de piano, de solfège, de chant, etc. Donc ça, ils savaient. Et puis dès qu'il y a eu un cours de théâtre quelque part, j'y suis allée. Hein, de la sixième jusqu'à la terminale, j'ai toujours fait du théâtre. Donc ils voyaient bien. On y avait quand même chez moi le passe ton bac d'abord, sans compter que personne n'avait le bac.
Ah ouais.
Donc j'ai été la première de la famille nucléaire.
Famille de
travailleurs. C'est pas des intellos, j'en parlais dans mon précédent spectacle justement. Sandrine vient d'un milieu culturel très défavorisé. Oui. Commerçants, hein, pas des commerçants qui ont fait HEC, des commerçants qui n'ont pas fait HEC justement.
Personnage très croustillant.
Voilà. Et oui, parce que moi je découvre cette bourgeoisie quand j'arrive à Paris, hein, que je connaissais pas forcément, même si à Toulon nous avons aussi une forme de cette bourgeoisie.
En Provence aussi il existe
ce genre-là. À Toulon ce sont les officiers de marine. Alors je les croisais quand même, je les croisais au lycée, puis je les croisais au conservatoire. Mm-hmm. Mais alors que c'était quoi la précédente question? J'ai jamais osé quand même dire.
C'est vraiment un plus adulte que vous avez.
Oui, j'ai jamais osé dire voilà, je vais faire des études. Non, j'ai eu mon bac et puis en plus j'ai eu la chance d'être parce qu'à l'époque je voulais être ministre. Je m'étais dit je voudrais bien être ministre de la condition féminine. J'étais allée voir, je me souviens très bien avoir vu la conseillère d'orientation en me disant moi j'aimerais bien être ministre de la condition féminine. Elle m'avait dit et puis elle m'avait prise très au sérieux, elle m'avait dit alors tout simplement il faut faire l'ENA et pour faire l'ENA il vaudrait mieux, ce serait bien de faire Sciences Po et pour faire Sciences Po ce serait bien de faire une prépa. Et moi je me dis bon bah, très bien, OK, je ferai Sciences Po, l'ENA, et je me suis inscrite en prépa. Mais là, j'ai compris que j'avais pas j'avais pas eu le chemin académique, j'avais pas eu les bonnes lectures, j'avais pas et donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
Il est pas trop tard, on sait jamais.
Mais bon, finalement maintenant je suis assez contente, je pense que je me
En vrai,
plus.
En vrai vous êtes un peu une ministre de la condition féminine à travers votre spectacle.
Mais bien sûr, quand je chante la loi du talon, je suis beaucoup plus d'ailleurs, tiens, vous me demandez aujourd'hui qui est la ministre de la condition féminine, il y en a-t-il une seulement aujourd'hui depuis que Marlène Schiappa est partie, oui. Cette formidable représentante de la condition féminine. Eh bien, je ne sais plus qui s'occupe de ça aujourd'hui, on sait
c'est
pas.
Vrai, on a
pas.
Eu
déjà, on ne connaît pas leur nom.
Oui, non, ministres. Oui, c'est vrai que ça fait un petit
Michel
moment.
Barnier,
c'est vrai Rotaillon. qu'on n'est pas dans l'époque de Leluron où tous les politiques étaient très illustres. Et
là, on sait pas qui c'est. Ouais. Qui sont ces gens?
Bon, moi, j'en croise quelques-uns parce que je fais une chronique le matin dans l'émission avec Christophe Barbier, mais effectivement, sinon, on est moins dans le star system des députés, là, ces derniers temps.
C'est pas qui c'est. Bah,
c'est notre président qui a pris toute la lumière. Et donc, vous gardez ça pour plus tard, quoi. Vous avez un souvenir, vraiment de la première fois où vous faites rire les gens?
Alors, je ne sais pas si je me souviens de la première fois où je fais rire les gens, mais je me souviens en classe de neige, où on était partis pendant 3 semaines en classe
vous
de neige.
Vous faisiez pas mal de colo.
Ouais, moi j'ai fait beaucoup de colo. Mes parents, donc je l'ai dit, étaient commerçants, travaillaient beaucoup, donc bah il fallait bien nous envoyer faire un changement d'air, comme on disait, puisque quand on habitait au bord de la mer, bah on nous envoyait à la montagne.
Oui.
Et donc je me souviens de, donc je suis en CM2, classe de neige, et un soir lors d'une veillée, le dernier soir ou l'avant-dernier soir, je chante, alors que je suis une piètre danseuse, mais je danse sur l'aigle noir et les
encore un oiseau,
les monitrices m'avaient maquillée, m'avaient habillée, je me souviens, j'avais un sarouel, et je me souviens que le lendemain les gens ne parlaient plus de la même façon.
Ouais.
Donc
il s'est passé quelque chose.
Forcément, inconsciemment, j'ai dû intégrer ça. Ouais. J'ai dû intégrer que lorsqu'on me voyait sur scène, après, on ne me parlait plus de la même façon. On ne me voit plus de la même manière. Et je pense que si nous montons sur scène, c'est il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, quelque chose de l'ordre de la performance. Oui, effectivement. Montrer de quoi on est capable.
Oui, c'est ça. Et c'est que si tu m'as pas vu sur scène, tu ne me connais pas complètement.
Hein,
tu peux voir toutes mes facettes.
Et c'est une phrase qu'on dit beaucoup quand les gens ne nous ont pas encore vu sur scène.
Bah oui, c'est ça.
Si tu m'as pas vu sur scène, tu peux pas savoir qui je suis.
Bah, pas complètement. Tu peux savoir un petit peu qui je suis, mais pas totalement.
Effectivement.
Voilà. Ouais.
C'est marrant parce que c'est une phrase que je dis beaucoup.
Voilà. L'effet miroir. Sur Radio J.
et donc, ses parents, ils vous transmettent, j'imagine, la valeur du travail.
Ça oui.
Ouais.
Ouais.
De l'effort. Et donc, d'ailleurs, vous avez joué il n'y a pas longtemps à Toulouse, et je crois que toute
à
votre
Toulon,
famille.
Toulon,
à Toulon.
Toulon.
À Toulon. À Toulouse, n'importe quoi.
Je vais jouer à Toulouse bientôt. Mais
à Toulon, qu'est-ce que
je raconte? À Toulon.
À Toulon, pardon.
Ouais.
Et votre famille était là?
Ils sont toujours là.
Ouais.
Ouais, ils sont toujours là. Ça, j'ai
c'est le clan.
De chance. Ouais. C'est vraiment. C'est pas le clan des Siciliens. C'est plus le clan des Piémontais, puisque du côté de ma mère, ils sont. Elle est originaire de. Enfin, ma grand-mère était piémontaise. Et oui, il y a une forme de clan. Ouais. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont contents. Ils sont fiers. Je vais jouer là. Je vais faire une résidence au Pradé. C'est vraiment un petit village
à côté
de Toulon. Les places ont été prises. En 24 heures, quand putain, ils ont jamais eu ça.
Je réservais tout au nom de sa roche.
On ne comprend pas, et on n'a plus de place. Les gens nous demandent,
c'est l'enfant du pays en même temps.
Alors,
justement, j'aimerais, puisqu'on parle de cette famille, j'aimerais voir comment ils vous ont transmis certaines valeurs.
On va
faire un petit quiz.
Mon père, c'était pas Casimir.
On va faire un petit quiz. Quiz portrait craché. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, physiquement, vous ressemblez à votre papa ou à votre maman?
Plutôt à mon père. Ouais. Et plutôt à mon père. Et alors, à mon père, en fait, je suis un mélange de mon père et de la sœur de ma mère. Voilà.
Ah,
si vous voulez savoir précisément.
C'est rigolo.
Non, voilà.
C'est vrai que des fois ça.
Oui, c'est ça
saute des.
Ça s'appelle l'hérédité.
Effectivement, voilà. C'est assez magique. Et moralement, pour le coup, à qui vous ressemblez?
Moralement, je pense que j'ai l'impression de ressembler à personne. Mais forcément, je dois ressembler. Je sais pas. C'est très très compliqué. C'est difficile de savoir à qui je ressemble. Je sais pas.
Je sais pas vraiment. Est-ce que par exemple, il y a un trait caractéristique, puisqu'on parlait de la valeur travail, etc., du sens de l'effort, est-ce qu'il y a un trait caractéristique qui se transmet de génération en génération dans votre famille?
Ah oui.
Vous qui avez aussi un.
Alors, par exemple, je suis très bordélique. Je suis très très bordélique et ça vient du côté maternel. Du côté maternel et du côté paternel. Alors là, il y a un croisement. C'est vraiment et je l'ai bien transmis à mon fils.
Ah d'accord.
Il a bien retenu la leçon et parfois j'arrive encore à pousser la porte de sa chambre, mais c'est de plus en plus difficile. Je le vois, c'est dans les deux côtés.
Il vous faut un Waze pour retrouver des objets perdus.
C'est mon plus gros défaut. C'est vraiment j'essaye de me corriger et de ranger régulièrement. Ça me fatigue quoi. C'est comme de faire du sport. Hein. Ça, c'est un truc, ça aussi, j'ai pas eu ce dans mes gènes, aussi bien de côté maternel, paternel, on n'aime pas faire de sport.
En même temps, c'est vrai que comme vous êtes par Mons et par vous, un peu partout, avec tout ce que vous faites, c'est pas évident de ranger des fois avec ça.
C'est vrai.
Ça fait
entre deux valises. Ouais,
effectivement. Effectivement. Si vous étiez une arme de séduction.
Est-ce que je. Ah, j'ai déjà dit, donc ce serait pas la ratatouille, ce serait pas le talon aiguille, mais embraser. Embraser, c'est presque embrasser.
Ouais.
Donc une arme de séduction, oui, une bouche. La bouche, quand même, bien sûr, c'est quand même l'arme.
Ouais. Bon, y a en plus, yeux, pour dire des choses.
Mais pour dire des choses, pour embraser.
Effectivement. On se retrouve après pour la suite de Sport Très Craché avec notre invité.